matin de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Mounir Majoubi. Vous êtes entrepreneur et président du Conseil national du numérique et co-signataire d'une tribune pour protéger le chiffrement publiée dans le quotidien Le Monde. Pour dialoguer avec vous, je suis en compagnie de mon camarade Xavier Delaporte, président du Billet numérique. Bonjour Xavier.
Bonjour, une grosse, lourde responsabilité.
Et pour beaucoup de nos contemporains, Internet est un instrument du diable ou à peu près d'ailleurs. Écoutez.
Internet, télévision, tout ce qui est le mal, c'est tout ça.
Voilà, terrorisme, commentaires haineux, on trouve tout ça sur le net. En tant que président du Conseil national du numérique, vous en avez assez d'entendre ça ?
Bonjour, est-ce que j'en ai assez ? On n'en a jamais assez, et puis comment elle pourrait dire autre chose ? Aujourd'hui, si j'ai l'âge de cette dame, eh bien en fait, à aucun moment dans ma vie, j'ai été vraiment sensibilisé à ce que c'était Internet et à ce qui s'y passait. Si je suis un peu exclu de la société, légèrement désocialisé, pas énormément, juste un tout petit peu désocialisé, il n'y a personne autour de moi qui utilise Internet. Donc elle, pour elle, l'Internet, c'est l'inconnu. Et en fait, c'est ça la grande peur d'Internet. C'est cette idée qu'il existe un endroit où on pourrait mettre toute la merde du monde, le terrorisme, les pédophiles. Alors pour elle, puisqu'elle vient d'une manif extrémiste, les homosexuels. Et on met tout ça là-dedans, on mélange et on met dans ce grand pot et on appelle ça Internet.
On va commencer par le terrorisme, qui, pas seulement d'ailleurs par cette dame, a été considéré comme étant en quelque sorte véhiculé par Internet, avec un certain nombre d'annonces, de mesures, contre les logiciels de chiffrement, contre ce qu'on appelle les réseaux sociaux en étant vague. Et là, que pensez-vous de ces différentes dispositions ou de cette volonté de légiférer ?
Les terroristes, ils sont véhiculés avec des voitures, et on n'a pas interdit les voitures. Les réseaux, Internet, les messageries, c'est avant tout des outils qui sont au service de tous, qui font qu'on communique, qui font qu'on communique avec notre banque, qu'on communique entre nous. Et mieux que des voitures, elles ont fait qu'on communique de façon nouvelle, différente, plus profonde, plus secrète, plus discrète. Et bah oui, il se trouve que parmi tous ces millions, centaines de millions, milliards d'utilisateurs, il y a quelques terroristes. Et la question qu'on pose, et c'est celle de la tribune, c'est est-ce que au nom de l'usage de ces terroristes-là, on va créer des exceptions qui ne sont pas des exceptions qui vont uniquement les concerner, mais qui sont des exceptions aux libertés qu'on va faire peser sur l'intégralité des utilisateurs. Ben c'est ça qu'on refuse. C'est-à-dire que techniquement, et ça c'est important de le redire parce que parfois on étouffe le sujet, créer une exception pour faire une backdoor pour pouvoir décrypter ou écouter les communications des terroristes sur les messageries chiffrées, ça veut dire casser le chiffrement pour tous les autres. Il n'y a pas de moyen technique qui existe pour le faire sans atteindre à tous.
Alors attendez, on va prendre le temps parce qu'il y a au moins deux choses dans ce que vous venez de dire. Tout d'abord, vous dites Internet finalement c'est un outil et on ne peut pas accuser l'outil de l'usage qui en est fait. Internet c'est aussi une technique et on peut considérer qu'une technique, surtout une technique de communication, elle influe sur la nature du message. Par exemple, Internet permet sur les réseaux sociaux l'anonymat et il est probable que cet anonymat influe sur des commentaires haineux. Internet, cela permet également une certaine ambiance, un certain type d'échange. Est-ce que vous n'allez pas vite en besogne quand vous dites finalement qu'Internet n'est pas coupable dans la diffusion du terrorisme ? Mounir Majoubi, vous qui êtes président du Conseil national du numérique.
Vous avez raison sur une chose, c'est qu'Internet a permis, plus que toute autre technologie, accélérer le temps. Accélérer le temps de la communication, le temps des cultures, la modification et les transformations de la société. Il n'y a aucune technologie sur les 200 dernières années qui a autant transformé la façon dont on vivait ensemble, dont on échange ensemble et dont on fabrique et pense ensemble notre société. Alors oui, vous avez raison, il y a eu l'anonymat. Vous avez eu raison, il y a aussi le fait qu'avec Internet, je peux venir de façon anecdotique, revenir, disparaître. Il y a le fait que Internet permet aussi à des gens qui ont des troubles mentaux, et ben de les vivre pleinement en ligne et d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça la petite différence, vous avez raison, entre Internet et la radio ou la télé, où finalement il y a très peu d'émetteurs dans la radio ou la télé. La radio et la télé, les pouvoirs ont toujours aimé ça parce qu'on peut contrôler. Le jour où on décide qu'il n'y a plus de liberté dans un pays, c'est plus facile de couper les 4 maisons de radio et les 5 émetteurs de télévision. Avec Internet, c'est plus dur. Mais la Chine et d'autres pays ont montré que c'était assez facile aussi. Enfin, assez facile. Très coûteux, mais possible de contrôler complètement.
Xavier Delaporte.
Mais justement, le fait que vous fassiez référence à la Chine pose une question. C'est-à-dire, c'est quoi les conditions d'existence de à la fois un Internet qui soit suffisamment libre et qui permette une part d'anonymat, qui permette d'en garder les bons côtés, pour le dire un peu grossièrement, et puis de l'autre côté, de garantir la sécurité de l'État, etc. Parce que, par exemple, quand on regarde dans le conflit qui a opposé Apple et le FBI pour la question du téléphone portable du terroriste San Bernardino, on est de loin, on est très hésitant. C'est-à-dire qu'on se dit, d'un côté, on comprend que Apple résiste au fait d'ouvrir des backdoors, enfin, d'ouvrir le téléphone. Et en même temps, on peut évidemment comprendre les autorités américaines qui ont cette espèce d'objet dans lequel il y a sans doute des informations essentielles et une entreprise qui dit, ah ben non, nous, on garantit le chiffrement, voilà. Quelles sont les conditions possibles de la coexistence de deux injonctions qui sont contradictoires souvent?
Mounir Majoubi.
Alors, là-dessus, sur ce cas spécifique, Apple FBI, en fait, c'est pas un cas spécifique, il est très intéressant parce qu'en fait, il incarne tout ce qu'on se raconte. Là, le débat en ce moment avec Cazeneuve sur la limitation du chiffrement, c'est la même chose. C'est l'idée de se dire, sur un cas spécifique, dans lequel toutes les raisons du monde nous poussent à dire, évidemment que je veux savoir ce qu'il y a eu dans ce iPhone, moi aussi, je veux absolument savoir. Sauf que le moyen technique pour y arriver, ça veut dire faire sauter la sécurité de tous les appareils des autres. Mais vous avez raison, on veut savoir ce qui s'est passé, ce qu'ils se sont dit, ces terroristes. Donc là-dessus, nous on dit il y a peut-être d'autres moyens que simplement d'aller exiger de rentrer par une porte dérobée dans les outils ou dans les communications. Il y a le fait de, par exemple, parfois, souvent, les enquêtes sont très déçues par le contenu qu'elles détectent à l'intérieur des messages. Ce qui est le plus intéressant dans les écoutes massives ou dans, quand on regarde, vous savez, dans les enquêtes, les relevés téléphoniques des journalistes. Ce qui est intéressant, c'est pas vraiment les échanges qu'ils ont eu, les échanges c'est intéressant, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la galaxie, la toile de personnes qu'ils ont contactées, quels sont leurs réseaux, à quel moment et à quelle fréquence ils se travaillent. Si on fait les graphes des échanges d'un terroriste, on est capable de se dire à quel moment il a contacté tel type de personne, et on pourra voir que pendant tout un temps il a plutôt échangé avec la Belgique. C'est ce qu'on appelle les métadonnées. Ces métadonnées, il y a plus de moyens d'y accéder que le message lui-même, et ça crée moins d'effets collatéraux dangereux.
Mounir Majoubi, vous êtes président du Conseil national du numérique. Le terrorisme met Internet sous pression, tout simplement parce qu'il va y avoir une exigence donc de lever, par exemple, l'anonymat. Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer, je ne sais pas avec quelle technique, que les échanges sur les réseaux sociaux soient effectués avec les noms véritables des individus? Est-ce que ça pourrait vous convenir?
C'est une question qu'il faut poser et qui fera résoudre collectivement. Moi, j'ai pas envie d'un internet où il faut mettre sa carte d'identité. Après, on peut avoir différents niveaux d'identification. Alors, regardez Twitter. Twitter, ils ont inventé le compte certifié. Un compte certifié, c'est le compte avec le petit point bleu à côté. Quand on a un compte certifié, c'est qu'on a montré ses papiers à Twitter et Twitter dit, j'ai vraiment vu les papiers de cette personne, ça me rassure. Avec sa banque, on a certifié son identité avant de se connecter. Avec les services publics, quand je me connecte à mon espace impôt ou à mon espace carte vitale en ligne, on a d'abord contrôlé qui j'étais.
Certes, mais les appels à la haine, généralement, ils ne sont pas le fait de comptes certifiés.
Mais alors, vous avez raison, mais je reviens toujours à ma question de les comportements extrêmes et la généralisation. Est-ce que, au nom de ces comportements extrêmes qui sont extrêmement minoritaires, je tue l'anonymat sur Internet qui a permis de libérer un nombre d'adolescents incroyables qui découvraient leur sexualité et leur vie, qui a permis un nombre absolu de journalistes dans des pays de pouvoir s'exprimer et d'échanger entre eux, à des personnes de s'organiser dans des groupements minoritaires et de pouvoir échanger. C'est-à-dire que Internet et l'anonymat, c'est le rêve de toutes les personnes qui subissent une dictature mentale ou réelle dans leur pays.
Xavier Delaporte. Je voudrais juste faire une incartade biographique, parce que on dit souvent, voilà, Internet a permis ceci, cela, etc. Vous, dans votre biographie, là, vous avez un profil qui n'est pas exactement le profil du geek général, disons. Qu'est-ce que ça vous a permis, vous?
Pourquoi?
C'était comment?
Pourquoi Mounir Majoubi n'a-t-il pas, non, mais le, pas le profil du geek?
Non, mais je sais pas, c'est pas.
Il a des lunettes.
Oui, non, mais non, mais c'est vrai. Mais non, mais dans votre voilà, vous avez découvert. Enfin, vous étiez pas d'un milieu hyper geek, pas forcément d'ordinateur chez vous tout de suite, etc. Enfin, pas de parents classe supérieure ou informaticien. Ben voilà. Et vous avez découvert ça manifestement. Et donc, j'aimerais juste savoir pour que vous concrétisiez cette histoire, mais de qu'est-ce que ça apporte.
Je vais concrétiser. Internet, ça a fait ma vie. Je viens d'une famille très pauvre, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait rien à la maison, et je découvre un jour au palais la découverte d'Internet. Et c'était la première
année
fois. J'avais 12 ans, je suis dans 84, donc c'est 95. 95, 96, il y a les postes Internet gratuits à la disposition de tous. Ce jour-là, le jour où j'essaye, je me dis que c'est incroyable. Je chatte avec une Canadienne qui s'appelait Winget Zebra, Et en plus, je parlais pas bien anglais, donc je savais même pas que Winged Zebra, ça voulait juste dire zèbre rayé. Et ça, ça a été le début de ma vie. Je me suis dit, tiens, je peux parler avec une Canadienne, et ça, c'est le début. Et après, 2 ans après, je rentre chez Club Internet en tant que technicien réseau. C'est-à-dire qu'à 16 ans, je passe mes nuits sur Internet, et de 16 ans à 24 ans, j'ai répondu à 9000 appels au centre d'appel pour régler les connexions des gens. Et ben, quand on fait ça pendant 10 ans, je peux vous assurer que j'ai une compréhension de ce qu'Internet a fait dans la vie de ces 9000 personnes qui est incroyable. Quand il y a une vieille dame qui a plus son Internet parce qu'elle, et qu'à cause de ça, elle peut pas contacter ses petits-enfants. Quand il y a des jeunes pour qui c'est le moyen de communiquer. Quand il y a des jeunes pour qui c'est le moyen de se socialiser quand même, de rencontrer son amoureux, son amoureuse, de rencontrer des... C'est quand même incroyable. Et pour ça, il faut l'anonymat et pour ça, il faut la liberté en ligne.
On écoute une personne qui, à mon avis, n'est pas d'accord avec vous. Elle s'appelle Nicolas Sarkozy, cette personne.
Internet, c'est un progrès formidable. Mais il faut que là aussi, on mette les points sur les i. On ne peut pas accepter qu'on puisse librement consulter des sites de propagande djihadistes sur Internet. Permettez-moi cet exemple. Qu'est-ce qu'on fait pour les pédophiles? Consulter un site pédophile, c'est de la pédophilie. Vous consultez régulièrement, pour des raisons qui ne sont pas des raisons de recherche, un site djihadiste, vous êtes un apprenti djihadiste, c'est pénal, la police doit être saisie et pouvoir orienter ces jeunes qui sont tentés par la radicalité vers des centres de déradicalisation. On ne peut pas continuer avec Internet où il serait permis de faire tout. La consultation d'un site djihadiste, c'est un délit pénal.
Des propos tenus au cours de l'émission Des paroles et des actes en février dernier. Mounir Majoubi, suivez-vous Nicolas Sarkozy lorsqu'il dit que la consultation, dans un certain esprit, il n'attaque pas évidemment les chercheurs, les journalistes, la consultation d'un site djihadiste est éminemment problématique?
Pour moi, c'est pas très sérieux comme phrase, parce que vous venez d'exclure simplement les journalistes et les chercheurs. Et
enfin, je pourrais exclure également les curieux.
Et les curieux, parce que dans 2016, on est tous intéressés par le djihadisme. Moi, j'ai envie de savoir ce que c'est cette première impulsion, pourquoi les gens ont envie de regarder ce genre de choses. Et on est plein de Français à se poser ce genre de questions. Donc, pour faire ça, ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait un listing des sites djihadistes. Puis après, à chaque fois qu'il y a des nouveaux sites, il faudrait les mettre dans le nouveau grand listing des sites djihadistes. Puis il faudrait regarder tout ce que tout le monde regarde pour savoir qui a regardé. Ça marche pas. Les interdictions d'accès à des sites, ça marche quasiment jamais. Parce que ce qui est incroyable avec ces djihadistes, c'est qu'en fait, ils sont structurés en toile avec des millions de supporters qui, quand on ferme un site, en créent la copie. Qui, quand on interdit un contenu sur YouTube ou qu'on le dénonce, en recréent une copie sur le côté. Donc il y a toujours cette question permanente de comment on agit en ligne sur ces questions-là. Bah, pour moi, c'est pas en interdisant l'accès ou en fichant tout le monde. C'est par exemple avec le contre-discours. C'est avec la présence en ligne massive. Si les Chinois sont capables de mettre plusieurs milliers de personnes pour empêcher les gens de se connecter, pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable de mettre plusieurs milliers de personnes pour être présent en ligne, comprendre, infiltrer. C'est ça qui est intéressant, c'est de rentrer dans ces réseaux.
Les Chinois font cela, la Russie a mis des personnes en ligne pour faire de la propagande, de la contre-propagande, pas seulement d'ailleurs sur la question du djihadisme, c'est le modèle poutinien en quelque sorte d'accommodement avec Internet. Est-ce que c'est cela que vous voulez, Mounir Majoubi?
Attention, je viens de parler de djihadisme. J'ai pas dit que je voulais un contre-discours national du gouvernement pour manipuler les masses. Je dis juste que sur ce sujet qui est critique, puisqu'aujourd'hui il y a du recrutement en ligne et qu'on a raison de dire que le primo recrutement, le primo contact, eh ben il a souvent lieu sur Facebook. Et ensuite, on l'amène généralement sur un groupe WhatsApp ou sur Telegram. Et ensuite, il y a des échanges de vidéos et de contenus, souvent à l'ancienne, avec des PDF, des PowerPoint qu'on s'échange dans ces réseaux un peu bizarres. Puis un jour, il y a des premiers rendez-vous et puis il y a des premières discussions. C'est à peu près ça le schéma habituel. Bah, il faut qu'on soit partout. Il faut que partout, on soit capable de détecter les primo-recruteurs. Il faut qu'on voit ces contenus qui circulent et il faut qu'on soit capable d'en faire circuler d'autres.
Mais on peut quand même éprouver de la colère, par exemple, par rapport à Facebook, par rapport à Twitter, par rapport à ces entreprises qui sont relativement timides dans leur manière de chasser les djihadistes des réseaux sociaux et qui font tout cela, évidemment, pour prospérer d'ailleurs de manière assez notable, puisque ces entreprises sont en très bonne santé financière. Est-ce que finalement, nos vies qui sont menacées aujourd'hui doivent être en quelque sorte relégués derrière leurs profits?
C'est une grande phrase, mais en tout cas, oui, je trouve qu'ils sont paresseux. C'est-à-dire que YouTube aurait pu se réveiller beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que quand ce sont les gestionnaires des droits d'auteur et des artistes qui mettent la pression à YouTube pour mettre des détecteurs d'abus d'utilisation de fichiers sur lesquels il y a des droits liés à des artistes, là, ils sont capables, en quelques mois, de créer un outil qui, à chaque fois qu'on upload une vidéo, va dire « Ah, attention !»
À chaque fois qu'on télécharge.
Non, qu'on l'upload. C'est-à-dire qu'on la...
Qu'on la télécharge aussi, mais dans l'autre sens.
Dans l'autre sens. Il va dire « Ah, je refuse de publier votre vidéo parce qu'elle contient une vidéo, une musique protégée d'un artiste. On leur demande la même chose, avec une base de toutes les vidéos de djihadistes qu'on connaît, dont on dit, faites gaffe à chaque fois qu'on veut vous les supprimer quand elles sont dénoncées. En fait, il y a déjà 10 personnes qui les ont réuploadées. Est-ce que vous pouvez pas nous reprendre votre même techno et détecter que c'est des vidéos dangereuses? Oui, oui, on va faire. 3 ans après, c'est toujours pas là.
Pourquoi?
Et parce qu'ils sont, alors la réponse officielle, c'est technologiquement compliqué, il faut nous donner le temps, oui, on va le faire et c'est important. Twitter, sur les propos haineux en ligne, oui, on va mettre en place un mail direct qui permettra sur les discours homophobes d'intervenir immédiatement. Résultat, on met 5 jours, 6 jours pour fermer un compte et pour être, il faut que ce soit la ministre de l'Éducation nationale qui téléphone au PDG de Twitter pour que ça aille plus vite. C'est-à-dire que, il faut que ces personnes-là aient des êtres humains payé à temps plein, disponible pour répondre à ces demandes-là. Aujourd'hui, ce que je reproche à ces grands acteurs internationaux incroyables, c'est que c'est des grosses machines avec des milliers de gens qui travaillent, mais on ne sait pas où ils sont. Et quand on a besoin d'avoir un contact, et ben là, on rentre dans une discussion machine. Alors maintenant, je suis une personnalité publique, j'ai le droit à une dans chacune des entreprises, j'ai une personne en charge des personnalités publiques. Mais moi, je m'en fous, je veux pas quelqu'un qui fait le lobbying. Je veux quelqu'un à qui, quand on signale un contenu, quand on signale un comportement, est capable de dire. Je m'en charge et j'ai un lien direct avec les Américains et je suis capable de supprimer ce compte. Ça, aujourd'hui, c'est compliqué. Ils l'ont mettent pas en place. Ça coûte de l'argent et il faudrait leur imposer d'aller plus vite.
Xavier Delaporte.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une raison politique? Parce que derrière l'existence de ces plateformes, il y a des gens qui ont des idéologies, dans un sens pas forcément négatif, mais qui sont très souvent très, très libertaires. Par exemple, quand on prend le PDG de Telegram, l'application de création russe, c'est un type qui est très clairement et de manière très affirmée un libertaire, et donc qui veut garantir une liberté d'expression la plus large, au risque même que cette liberté d'expression puisse par ailleurs nourrir des entreprises terroristes, etc.
Bon. Et c'est toute son ambiguïté, hein?
Ouais, mais donc là, il y a une question d'idéologie politique très profonde, qui n'est pas simplement question de technique ou d'économique.
Son ambiguïté, il dit à peu près la même chose que vous. Il dit finalement, ça n'est pas parce qu'un petit nombre de personnes utilisent Telegram dans un but évidemment condamnable que l'on doit supprimer la totalité de cette application. Est-ce que ça n'est pas finalement en grande partie votre discours?
Il dit la première partie de mon discours. La deuxième partie de mon discours, c'est qu'il faut agir avec tous les moyens possible contre les terroristes. Et lui, de son côté, dit « Attendez, c'est pas si facile que ça. Moi, je refuse les demandes judiciaires internationales. Mes serveurs, d'ailleurs, vous savez quoi? Ils sont hébergés dans 14 pays différents et je les fais tourner tous les jours. » Donc ça veut dire que si vous me demandez l'accès aux métadonnées d'échange sur un utilisateur donné, eh ben, je vous dirais qu'il a été stocké dans ce serveur, dans ce pays-là, le temps que vous fassiez votre demande, mais après, la donnée n'y est plus, elle est dans un autre pays. En fait, il a tout structuré et organisé, à la fois juridiquement, techniquement et architecturalement dans son système pour qu'on ne puisse pas y accéder. Moi, je suis pour que le juge, pas les services de renseignement, le juge, c'est pas les mêmes personnes, que le juge puisse exiger de Telegram, pas le contenu des communications puisqu'il est crypté, ce contenu, mais que les métadonnées, on puisse obliger Telegram à nous donner les métadonnées d'un djihadiste identifié qui est actif et qu'un juge, pour lequel le juge a ordonné une action. Ça, je veux qu'il réponde. Et aujourd'hui, Telegram ne répond pas à ça. Donc là, il y a un problème, Telegram. C'est pour ça que Cazeneuve, je suis pas d'accord quand il fait sa grande généralité et qu'il raconte on va limiter le chiffrement, mais quand il dit il y a un problème d'accès aux informations avec Telegram, il a raison. Et là, il faut trouver une solution.
Mais si vous parlez du juge, c'est qu'il est déjà trop tard. Ce que l'on aimerait, c'est que la prévention soit faite, une prévention qui empêcherait, en quelque sorte, je vais prendre une métaphore biologique, mais qui empêcherait finalement la dissémination du virus djihadiste, puisque c'est cela qui s'est produit. Sans Internet, il n'y aurait pas de djihadisme tel que l'on l'observe aujourd'hui. Et l'État islamique a utilisé l'Internet comme sa première arme. Franchement, ne serait-il pas possible que les acteurs d'Internet se mobilisent pour que cela puisse être fait en amont?
En tout cas, il faut que les gros, parce que les gros, c'est quand même 90%, 95% d'utilisateurs en France. On est les plus gros utilisateurs de Google dans le monde. Sur Facebook, on est parmi des pays qui est en pourcentage le plus élevé. Ceux-là, qui sont très grand public, qui font énormément d'argent, il faut qu'ils se mobilisent, évidemment. Telegram, c'est autre chose. Je ne demande pas de se mobiliser, je demande de respecter un tout petit peu plus le droit. Et sur le juge, peut-être juste une toute petite exception, le juge, parfois, il intervient aussi pendant les enquêtes judiciaires et même aussi dans les enquêtes de renseignement.
Mounir Majoubi, on vous retrouve à 8h20. Vous serez rejoint par Adrienne Charmet, porte-parole et coordinatrice de la Quadrature du Net, et de Jean-Marc Manac, journaliste d'investigation et spécialiste des questions touchant à la surveillance et à la vie privée sur Internet. Et nous continuerons donc à évoquer ce thème de la dangerosité en compagnie donc de mon camarade Xavier Delaporte.